Alors, j'aimerais que nous lisions ensemble. C'est enregistré là, c'est bon. J'aimerais que nous lisions ensemble un extrait de l'Épître aux Galates. Et nous allons lire des versets 22 à 31. Galates, chapitre 4, versets 22 à 31. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. » Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ce passage est intéressant dans le contexte dans lequel il a été écrit, puisque, comme vous le savez, les Galates avaient été, je dirais, infectés par la doctrine légaliste des judaïsants, qui ont voulu imposer aux croyants d'origine païenne, devenus chrétiens donc, qui ont voulu imposer la loi de Moïse. Donc ils ont voulu faire d'eux, bon ils étaient déjà chrétiens, mais d'en faire des chrétiens juifs, et donc assujettis à la loi. Et donc Paul est en train de lutter contre cela, et il dit quelque chose de très intéressant d'ailleurs, que j'avais jamais remarqué, mais lorsqu'il est dit de cette image allégorique entre Agar et Sarah, et que Agar est le type de la loi de Moïse, c'est-à-dire l'esclavage, puisque Agar était une esclave elle-même. Donc cette esclave a enfanté, mais elle est restée esclave. Et de la même manière, la loi, elle est spirituelle, elle est bonne, mais en même temps, elle ne nous délivre pas du péché. Elle condamne le péché, mais elle ne nous délivre pas du péché. Et donc il y a encore de l'esclavage. Et c'est intéressant de noter que Paul utilise la vie du peuple de Dieu, Israël, et au verset 24, il dit « ces choses sont allégoriques ». Car ces femmes sont deux alliances. Donc c'est ce mot qu'il faut garder en tête, parce que lorsqu'on parle d'alliance, on peut utiliser peut-être un mot un peu plus moderne aujourd'hui, c'est un contrat. Et quand on écrit un contrat ou quand on établit un contrat, c'est l'écrit qui compte plus que les circonstances qui peuvent s'imposer par ailleurs. Ça va au-delà de nos émotions, de nos sentiments. Je prends le cas du mariage par exemple. Le mariage c'est un contrat. C'est un contrat entre un homme, une femme et les autorités du pays. Et les autorités du pays sont là pour valider le contrat et pour surveiller si le contrat est bien respecté. Et pour défendre le contrat, ou s'il y a quelqu'un qui enfreint le contrat. Et si le contrat doit être rompu, puisque maintenant nous sommes dans un pays où le divorce est permis, ce n'est pas ni l'homme ni la femme qui prononce le divorce, ce sont les autorités. Et donc on voit bien qu'elles sont investies dans ce contrat. Et puis, une fois qu'on est marié, dans un couple, il peut y avoir des hauts, des bas, des situations où l'amour prévaut. De temps en temps, malheureusement, c'est des fois la haine, l'animosité, l'amertume. Il se passe plein de choses. Mais indépendamment de ce que le couple vit, le contrat reste valable. Les gens restent mariés. Le mariage n'est pas plus ou moins un mariage en fonction des situations du couple. Le couple reste marié, peu importe les circonstances. C'est une alliance, c'est un contrat. Et là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les Israélites aient envie, à l'époque, d'obéir à la loi ou pas, ils étaient sous cette alliance. Ils devaient respecter la loi, que ça leur plaise ou pas. Peut-être qu'il y a des jours où ils avaient plus envie d'obéir à Dieu que d'autres, n'empêche que si un jour ils n'avaient pas envie, ils désobéissaient, ils risquaient d'être sous la menace d'une sanction de la part de Dieu, parce que la loi continuait d'exister. Et c'est exactement la même chose concernant la grâce. C'est-à-dire que la grâce, elle nous a été offerte, c'est une alliance qui nous a été proposée, une alliance entre le Père et le Fils, et tous ceux qui sont dans le Fils sont au bénéfice de cette alliance, ce qui fait que si un jour je me sens pas bien, je me sens nul, un peu poisseux spirituellement, vous savez, on a l'impression qu'on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à lire notre Bible, on n'est pas édifiant, n'empêche que nous sommes toujours sur ce contrat, nous sommes sous cette alliance. Mais une chose qui est très intéressante, là, donc il dit, verset 24, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc c'est intéressant parce qu'il parle d'Agar comme l'esclave, on le sait, c'est ce qui se passe au temps d'Abraham, et ensuite il parle de la loi du Sinaï qui est comparable à de l'esclavage. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que Dieu venait de les délivrer d'esclavage en Égypte. C'est quand même intéressant. Alors évidemment, ce n'est pas le même esclavage. C'était plutôt un esclavage social avant, en Égypte, un esclavage national. N'empêche qu'ils sont délivrés de cet esclavage-là pour se retrouver libres en tant que nation, mais par rapport à leur relation avec Dieu, sous un autre esclavage. Et tout simplement parce que Dieu a voulu montrer qu'il y avait un esclavage encore plus puissant que l'esclavage social. C'est l'esclavage dans lequel nous sommes, sous lequel nous sommes assujettis, c'est l'esclavage du péché. C'est-à-dire que le péché va prévaloir en toutes circonstances sur notre vie. Nous sommes nés dans le péché et donc ça nous ronge hein, quand on est un tant soit peu obéissant à Dieu lorsqu'on veut essayer de marcher avec lui. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser nous en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est de se dire mais comment se fait-il aujourd'hui que je suis des fois emprunt à vivre des choses contradictoires? C'est-à-dire, c'est ce que Paul nous explique en Romains chapitre 7. Vous savez, le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Et c'est vrai qu'on pourrait dire à Dieu, et je l'ai entendu des fois, des gens me posent la question, mais si on est sauvé, pourquoi Dieu nous a laissé la nature pécheresse, la vieille nature pécheresse? Pourquoi on est encore assujetti à ces tentations? Pourquoi il ne nous a pas délivré de cela? Tout simplement parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Pas forcément le nôtre individuellement, mais celui d'Adam. Adam était responsable d'une lignée et il a décidé d'assujettir lui-même et toute sa descendance au diable et au péché. Et donc, on est encore assujetti à cette alliance que Adam a fait avec le serpent, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourquoi Dieu n'enlève pas cette malédiction? Je dirais, non pas spirituel, parce que maintenant on en a été délivré, mais pratique. Comment ça se fait-il qu'il ne nous ait pas enlevé cette vieille nature pécheresse? Parce que Dieu ne nous a pas délivré de ce monde. Il nous a délivré pour un monde à venir. Il ne nous a pas délivré pour qu'on vive parfaitement dans ce monde. Ce monde est encore assujetti au péché. Le prince est encore le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, Satan. Et il y a encore notre nature pécheresse qui sera annihilée, qui sera détruite complètement lorsque nous allons mourir et quitter cette sphère dans laquelle nous sommes assujettis. Donc pendant le temps qui nous reste à vivre, nous sommes obligés de subir la décision qu'a pris Adam un jour. Mais Dieu a décidé de créer des nouveaux cieux, nouvelles terres, des nouvelles conditions, une nouvelle naissance. Et ce qui fait que cette nouvelle naissance a commencé spirituellement dans le domaine de l'invisible. Nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, mais nous avons encore ce corps de mort. Et nous allons un jour ressusciter. Nous ne sommes pas ressuscités aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est comme si entre la partie immatérielle de notre être qui a déjà été régénérée et la partie physique de notre être qui ne l'a pas été, qui le sera plus tard, il y a comme une désynchronisation. Et un jour, ça va se synchroniser. Ce sera lors de la résurrection. Donc aujourd'hui, nous vivons par la foi. Et c'est pour ça que je disais que c'est important de comprendre que ce sont des alliances que nous sommes en train d'expérimenter, dans le sens où c'est par la foi que je crois que cette alliance est valable pour moi. C'est pas dans mon ressenti ou dans mes émotions. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai commencé très mal ma journée, j'ai fait n'importe quoi, mais ça ne veut pas dire que Dieu est contre moi, il est contre ce que je fais, ce qui n'est pas la même chose. Mais ce que je suis est au bénéfice d'une alliance dont j'ai hérité par Jésus-Christ, tout comme j'ai hérité d'une autre alliance qui est la loi du péché et de la mort, et dont j'avais hérité aussi par Adam, et je crois maintenant que je suis descendant de Christ. Et c'est pour ça que vivre par la foi est important, parce que si je ne vis pas par la foi, je vis par des résultats, par ce que je ressens, par ce que j'expérimente, par ce que je vois, par ce que je ressens, et du coup je suis prisonnier de la vie que j'expérimente. Or, en réalité, la Bible me dit, selon l'apôtre Paul, que Christ est ma vie, ce n'est pas moi qui suis ma vie, c'est Christ qui est ma vie. Et donc, je dois m'identifier à ce que lui a fait pour moi et recevoir par le Saint-Esprit la provision qu'il a pour moi. Pour vous donner un peu un exemple, dans le domaine physique, alors je ne suis pas un spécialiste, mais croyez-moi sur parole, ayez foi en moi et dans mes recherches, vous avez plusieurs lois dans la physique. Vous avez la loi de la gravité, par exemple. La loi de la gravité, elle est facile à expliquer, je peux vous la... Alors, une expérience n'est pas une preuve absolue, mais enfin, il y a des théories, on fait des expériences et ensuite, on établit des conclusions. Mais si je fais ceci, ça tombe. C'est la loi de la gravité. On peut rien faire contre, a priori. Et ça, c'est la loi du péché. C'est-à-dire que, parce que je suis pécheur, je pêche tous les jours. Voilà. Et ça, ça me hante, parfois. Ça me ronge. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 7. C'est, qui me délivrera de ce corps de mort, de cette loi qui fait qu'en permanence, je pêche, je tombe. C'est la loi de la gravité. C'est ce que je ressens, c'est ce qui est vrai. Mais il y a une autre loi que vous connaissez aujourd'hui. J'aurais pas pu donner cet exemple il y a 2 siècles. Ou s'il y a 2 siècles, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez bien comprendre. C'est qu'il y a une autre loi en physique, c'est la loi de l'aérodynamique. Et la loi de l'aérodynamique, je ne sais pas comment elle fonctionne, je ne suis pas physicien, mais s'il y a une poussée à un certain moment et des ailes fabriquées de telle façon avec l'air qui est en dessous les ailes, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant un temps, tant que l'avion roule à une certaine vitesse et que les ailes sont placées d'une certaine manière, bah c'est la loi de la gravité qui prévaut encore. Et puis à un moment donné, c'est la loi de l'aérodynamique qui fait que l'avion se soulève, alors qu'il pèse des tonnes, des tonnes et des tonnes. Moi, j'arriverai jamais à voler parce que je n'ai pas un corps qui me permet de profiter des lois de l'aérodynamique. Mais si je construis un objet comme un avion, je peux le rendre, il peut être mis à profit pour que la loi de l'aérodynamique fonctionne. Et c'est ce que Dieu a fait en nous faisant naître de nouveau. C'est-à-dire que la nouvelle naissance n'obéit plus à la loi de la gravité, du péché. Elle obéit à la loi de l'aérodynamique, c'est la loi du ciel. Mais évidemment, nous, dans notre ressenti, aujourd'hui, et d'ailleurs même en physique, on est vraiment assujetti à la loi de la gravité. Donc on se dit, comment un avion peut voler? Mais à la limite, si je vous posais la question, comment vous pouvez tomber, vous ne pouvez pas me l'expliquer non plus, si vous n'êtes pas physicien. Mais simplement, vous allez plus croire à la loi de la gravité parce que, expérimentalement, vous la subissez, la loi de la gravité. Donc, vous allez la croire même sans la comprendre. Mais par contre, si je vous explique si je vous parle de la loi de l'aérodynamique, vous allez me dire, ah non, mais c'est pas possible. Et puis, si je vois qu'un avion vole, ah oui, alors c'est peut-être vrai. Mais vous avez toujours pas compris comment ça fonctionne. Mais par contre, vous voyez que l'avion vole. Eh bien, vivre par la foi, c'est de croire qu'à un moment donné, si, prenons le cas d'un oiseau ou d'un avion, si je me mets à courir d'une certaine manière, avec les vêtements appropriés, j'en sais rien, ou en haut d'une montagne, ben même si je subis la loi de la gravité, à un moment donné, si je fais tout ce qui est conforme à la loi de l'aérodynamique, je vais m'envoler. Mais il faut que je le fasse par la foi, parce que tant que je cours dans un premier temps, je suis toujours assujetti à la loi de la gravité, et donc je suis attiré vers le bas, et je me dis, je vais jamais arriver à voler. Oui, mais si je suis persévérant, si je fais les bons gestes, à un moment donné, la loi de l'aérodynamique va me soulever et je vais me mettre à voler. Et la vie que nous expérimentons aujourd'hui, parce que quand on sera ressuscité, on ne pourra plus pécher. Donc pour utiliser la même illustration, la loi de la gravité n'existera plus. Donc je ne pourrai plus pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc la nouvelle naissance, la nouvelle vie que nous aurons pour l'éternité, elle ne pourra plus pécher, elle. Mais aujourd'hui, il y a 2 lois. Il y a la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit et vie. Et il m'est demandé de croire en l'une ou l'autre de ces lois. Mais une fois que je crois dans celle que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire la loi de l'esprit et vie, ou loi de l'aérodynamique, pour garder l'image et l'illustration, il me faut, alors que je suis assujetti à la loi de la gravité, fonctionner d'une autre manière pour produire de l'aérodynamisme. Et ça s'appelle marcher par la foi. Par exemple, je me suis disputé avec quelqu'un, mais je vais croire qu'il faut lui pardonner, je vais croire qu'il faut aller le voir, je vais croire qu'il faut aller s'expliquer, je vais croire qu'il faut aimer mes ennemis. Et c'est une autre loi que la loi du péché qui va agir en moi, et à un moment donné, je vais m'envoler. Alors ça ne veut pas dire que la personne va s'envoler avec moi. Elle peut rester dans la chair. Mais moi, je serai béni par Dieu. Je serai rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aurais choisi de vivre une autre loi par la foi, et à un moment donné, le Saint-Esprit va produire quelque chose en moi que je ne peux pas produire par moi-même. Vous voyez comment ça fonctionne? Et les Galates, eux, avaient reçu l'enseignement de la loi, parce que l'enseignement de la loi correspond plus à ce que nous ressentons au niveau de l'être premier, c'est-à-dire le descendant d'Adam. Le descendant d'Adam, il vit dans la culpabilité parce qu'il sait qu'il est coupable. Il essaie de se mettre des feuilles de figuier en permanence dans l'existence. Si je justifie, je suis nul, mais je travaille bien à l'école. Je suis nul, mais je gagne de l'argent. Je suis nul, mais au moins ça, ça marche. On essaye d'améliorer notre image propre par un moyen ou par un autre, mais qui, en général, ça ne fonctionne pas. Le seul moyen d'être justifié, c'est par Christ en réalité. Pourquoi ? Parce que à l'image de Dieu, nous avons été créés pour vivre ce qui est parfait. Et comme nous ne vivons pas ce qui est parfait, on est perdu d'avance. Mais en revanche, quand je crois que celui qui était parfait pour moi m'a accueilli dans le royaume de son Fils bien-aimé, je vis en nouveauté de vie, mais par la foi, et j'obéis à une autre loi, qui est la loi de l'aérodynamique. Vous savez, on donne souvent cet exemple, et c'est vrai, ça nous est expliqué dans l'Épître aux Romains, que la justice de Dieu, c'est-à-dire ce que Christ a vécu à notre place, a été mis sur notre compte. C'est-à-dire que Jésus a vécu sans péché, et ben moi non plus. J'ai vécu sans péché du point de vue de Dieu. C'est-à-dire que la vie de Christ m'a été offerte. Et on associe souvent, on donne l'exemple d'un chèque. Vous savez, quand vous avez reçu un chèque, on n'a pas l'impression que c'est de l'argent, mais pourtant, c'est le chiffre qui est marqué, qui équivaut à une certaine somme. Il faut y croire. Si on pense que c'est simplement du papier ou quelque chose de faux, qui ne sert à rien, je le déchire et puis terminé. Mais il faut faire plus que croire à la valeur du chèque. Il faut ce qu'on appelle, en France en tout cas ça fonctionne comme ça, mais dans la plupart des établissements bancaires à l'étranger aussi, il faut endosser le chèque. C'est-à-dire que une personne sur la face A du chèque a écrit le montant et a posé sa signature. Qu'est-ce que je dois faire, moi ? De l'autre côté du chèque, je dois mettre mon nom, mon numéro de compte et mettre ma signature aussi. C'est-à-dire que je dois souscrire à l'Alliance. Et c'est ce qu'on a fait quand on s'est converti. C'est-à-dire qu'on a accepté Christ comme sauveur et donc on a souscrit à cette alliance. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, mais tout le monde ne va pas endosser le chèque. Tout le monde ne va pas aller à la banque pour le mettre sur son compte. Et c'est ça l'œuvre de la foi. C'est pas une œuvre en termes de... L'argent, c'est pas moi qui l'ai gagné. Mais l'œuvre que j'ai à faire, c'est de croire que ce chèque a de la valeur. Et de la même manière, c'est Christ qui a fait l'œuvre à ma place. Mais moi, mon œuvre, l'œuvre, c'est de croire en celui que le Père a envoyé. Et comment croire en celui que le Père a envoyé, c'est endosser le chèque en disant oui, mais moi ça je signe moi. Tu me donnes tout, Seigneur. Il y a tout en Jésus-Christ. Ok, je signe aussi. Et du coup, il y a une alliance. Et cette alliance, elle est à notre bénéfice aujourd'hui parce que nous sommes croyants, quand bien même nous passons une très mauvaise journée. Et trop souvent, on a tendance à se replacer sous une loi quelconque, alors sans doute pas par la loi de Moïse, parce que nous ne sommes pas juifs d'origine, mais ça peut être nos lois culturelles, nos lois sociales, nos lois familiales, nos lois dénominationnelles dans une église, nos lois religieuses qu'on s'est fabriquées dans notre tête, et on se dit « si j'arrive à faire ça, au moins ça va effacer un peu la dette que j'ai ». Non, non, la seule façon d'effacer la dette, c'est le sang de Christ, qui peut me donner une bonne conscience. Ah oui, mais c'est trop facile. C'est peut-être trop facile, mais justement parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Donc prenons-le, signons, endossons le chèque. Et c'est comme ça que nous allons vivre en nouveauté de vie. Et du coup, on ne vivra pas sous la loi du péché, mais sous la loi de l'esprit et de la vie. Et c'est ça qui va faire que notre vie va porter du fruit. Et donc, trop souvent, on a tendance à évaluer notre spiritualité ou à évaluer nos journées ou à prendre des décisions en fonction du ressenti que nous avons par rapport à une expérience. Et on se dit, voilà, l'expérience aujourd'hui est tellement négative que ça ne sert à rien que je prenne une bonne décision. C'est comme si on se punissait nous-mêmes, si vous voulez. Non, non, vous savez que même si vous avez passé une mauvaise journée, vous avez le droit d'abord de confesser vos péchés. Et lorsque vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. D'abord, c'est une promesse. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez immédiatement intercéder et prier pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ah, mais c'est trop facile ? Absolument, c'est très facile. Mais faites-le, si c'est facile. N'empêche que c'est écrit dans les Écritures. Des fois, on n'ose pas demander des choses à Dieu parce qu'on pense qu'on ne les mérite pas. Mais vous avez raison, on ne les mérite pas. Mais c'est une alliance. C'est une alliance qui s'est fondée, qui s'appuie sur le mérite d'un autre, qui est le mérite que nous avons en Jésus-Christ. Et donc en Romains 8:2, Paul écrit ceci, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. tout comme la loi de l'aérodynamique nous affranchit de la loi de la gravité. Ça ne l'annule pas, la loi de la gravité, elle est toujours là, mais on en est affranchi quand on opère selon les lois de l'aérodynamique. Et bien, quand on opère selon les lois de l'esprit et vie, la loi de l'esprit et vie, on est affranchi de la loi du péché. Et donc on est fortifié par le Seigneur. Et vous savez, il y a une... Je pensais à moi, il y a quelques jours, et dans ma, je pensais à ma relation avec Dieu, et une image m'est venue, et qui m'a béni, donc je voudrais vous la partager. Lorsque j'étais, il y a quelques années, comme vous le savez pour certains d'entre vous, j'ai été appelé comme juré dans un procès d'assises. Et donc j'ai assisté à tout le procès, et puis j'ai dû me prononcer avec les autres sur la sentence. Et donc j'ai vu ce que c'était qu'une salle d'audience, j'ai vu ce que c'était qu'un palais de justice. J'étais jamais entré dans un palais de justice. Alors il y a différents palais de justice en France. Il y a les vieux palais de justice qui sont assez classiques, hein, à l'ancienne. Et là, dans celui dans lequel je suis allé, il est très moderne. Donc, de l'extérieur, c'est pas l'idée qu'on se fait d'un palais de justice, mais c'en est un. Et j'imaginais un pays, un royaume, un endroit où on fait visiter quelqu'un et on le fait rentrer dans une salle d'audience. Et dans la salle d'audience, bah, vous avez ce que vous pouvez imaginer quand vous regardez des films où il y a des procès qui se tiennent. Vous imaginez l'endroit où est le juge, et vous avez les meubles, le mobilier, avec une poussière sur les meubles comme ça, 10 cm, vous savez. Vous marchez par terre, et ça, c'est un nuage de poussière qui se répand. Vous avez les micros dans lesquels le juge parle, le micro dans lequel le témoin parle ou l'avocat général. Et puis vous tapez sur le micro, ça fonctionne plus. Vous essayez de voir si l'électricité fonctionne, rien ne marche. Vous voilà. Imaginez un endroit où presque on est en train de déterrer un site souterrain où vous retrouvez un palais de justice comme ça. Et cette image, pourquoi elle m'a marqué ? Parce qu'en réalité, pour les chrétiens, c'est exactement ça qu'on vit, c'est qu'il n'y a plus de salle d'audience. Il n'y a plus de palais de justice. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de procès. Parce que Christ est mort pour nous et il a payé à notre place. Nous avons cette idée que un jour devant Dieu, peut-être, ou dans notre vie, on va être tellement châtié, Dieu nous en veut tellement, et on se juge en permanence. C'est-à-dire que les avocats, c'est-à-dire le diable qui accuse les frères jour et nuit, il est toujours vivant. Le micro et la sono fonctionnent bien fort. Et puis il y a des interrogations en permanence, et puis nous on essaie de justifier, de répondre aux questions. Alors des fois c'est des, on s'accuse, on va dire bah oui c'est vrai, je suis nul, ou alors ah mais non mais c'est pas de ma faute, c'est la faute à lui. Et dans notre tête c'est un procès permanent. Et dans cette salle d'audience, il n'y a pas une poussière, tout fonctionne. Mais ça c'est le système de la loi, c'est le système qui est le contraire de la liberté. Les gens qui sont en dehors du palais de justice, eux sont libres. Et vous, quand vous êtes dans cette salle d'audience et qu'en plus vous êtes accusé, vous ne vivez pas dans la liberté et vous avez peur de la sentence. Mais nous, nous savons qu'un jour, il y a eu une salle d'audience, c'était la croix. C'était la croix où les péchés du monde entier et dont les miens ont été déposés et où justice a été rendue. Et si moi qui visite une salle d'audience peut dire mais oui mais c'est dommage qu'elle puisse pas servir parce que j'imagine que des malfrats vont encore faire des choses horribles, il va y avoir encore des meurtres, il va y avoir encore des vols, et c'est un peu la même chose dans notre vie, on peut se dire mais demain je vais peut-être encore pécher. Oui mais à la différence près, c'est que Jésus a payé pour mes péchés de demain. Donc la salle d'audience elle est plus utilisée de toute manière. Parce que c'est dans l'éternité que le sang parle. Nous, comme nous sommes dans le temps, nous vivons en fonction des émotions que nous ressentons dans le temps. Donc demain je vais pécher et je risque de vivre dans la culpabilité. Mais si j'ai cette image en disant « oui j'ai péché, mais je n'ai pas allé dans la salle d'audience, il n'y en a plus, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'avocat général, le diable ne peut plus nous accuser, le diable n'a plus de droit sur notre vie. Et j'ai un avocat auprès du Père qui intercède pour moi et je suis accepté dans le bien-aimé pour l'éternité. » Et donc, j'ai plus besoin d'essayer d'entrer dans un endroit dans ma tête spirituellement, tout comme les Galates, ils sont rentrés dans un système légaliste où la loi disait « si tu fais pas ci, attention, si tu fais pas ça, attention », comme s'ils étaient des coupables potentiels en permanence. Non, nous sommes des pécheurs potentiels en permanence, parce que demain je peux pécher. Mais je ne suis plus un coupable, potentiellement parlant. Parce que j'ai été délivré du péché. J'ai été délivré de la malédiction du péché. J'ai été délivré de la malédiction d'Adam. Et donc aujourd'hui, je suis accepté dans le bien-aimé. Ce qui fait que les salles d'audience, pour moi, c'est bon pour les musées. C'est bon pour les archéologues. C'est bon pour les historiens. Mais mon histoire ne se passe plus dans ces salles d'audience. Mon histoire, c'est une place qui est en train d'être préparée dans la maison du Père. Et quand on visite de la famille, on s'attend pas, et notamment nos parents, on s'attend pas à rentrer dans une maison où il va y avoir un avocat général, un accusateur, un juge. On s'attend à être bien accueilli dans la famille. Et ben, c'est ce que Dieu fait en par Jésus-Christ. C'est qu'une place est préparée dans la maison du Père. Et c'est ça qui nous rend libres. Le péché, le châtiment qui est tombé sur lui, nous a rendus libres. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Donc faisons attention en 2 Corinthiens 5, 17, je terminerai là-dessus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les palais de justice sont passés. Les salles d'audience sont passées. Les avocats généraux, c'est du passé. L'accusateur des frères, c'est du passé. La culpabilité, c'est du passé. La loi, c'est le passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand je parle de nouveauté, c'est comme si Adam n'avait pas chuté en Éden. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai reçu la vie de Christ, le nouvel Adam, le second Adam. Et je suis héritier de lui. Et tous ceux qui sont héritiers de Christ ne seront jamais accusés. Ils peuvent être châtiés comme un père châtie son enfant, mais l'éducation parentale n'a rien à voir avec une justice pénale ou une cour d'assises. Or, nous, souvent, on a tendance à voir Dieu au sein d'une cour d'assises ou d'une cour pénale, alors qu'en réalité, notre relation avec Dieu, c'est dans une maison. Et des fois, le maître de la maison nous corrige, c'est vrai. Mais nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé pour l'éternité. Alors ça paraît incompréhensible parce qu'on se dit, ben oui, mais j'ai encore ce péché en moi, j'ai encore cette loi de la gravité qui m'attire vers le bas. Comme dit le psalmiste David, mon corps est attaché à la, mon âme est attachée à la poussière. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre loi. C'est la loi de l'aérodynamique. Celle qui m'envole vers les cieux, qui m'envole vers l'éternité. Et ça, c'est notre assurance en tant que chrétien. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta justice que nous avons reçue par la foi. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans ces promesses, dans cette alliance de plus en plus. On l'a déjà reçue, cette alliance. Nous sommes croyants, mais que cette année 2022 nous fasse entrer de plus en plus dans une nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur, à recevoir tes faveurs par grâce. Aide-nous à intercéder. Aide-nous à vouloir le meilleur de... Ne pas avoir peur, Seigneur, de demander, et toi tu nous donneras en abondance. Et ce n'est pas selon un système de légalisme ou le système de la loi, mais c'est par ta grâce, Seigneur, par la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Je te demande de bénir cette assemblée, de bénir les couples, que les couples vivent aussi selon cette alliance, que les familles vivent selon cette alliance, que nos relations soient le résultat de cette alliance, Seigneur. Je prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.